Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, ravie de vous accueillir pour ces deux heures d'infos, de débats et de points de vue. La Saint-Valentin, c'est dimanche. Et l'amour, figurez-vous, ça n'a pas d'âge. Votre mère, votre père, peut-être même votre grand-mère ou votre grand-père ont refait leur vie. Ils sont de plus en plus nombreux, après 50 ans, à se dire qu'il reste encore du temps pour être heureux et amoureux. Les papis et mamies d'aujourd'hui bousculent les codes et c'est toute la famille qui doit s'adapter. On en parlera avec mon invité à partir de 18h20, la chercheuse Anne Solaz, qui a réalisé une enquête passionnante pour l'INED sur la question. Gérald Darmanin, Marine Le Pen et l'islamisme, le débat d'hier soir. Votre livre, j'aurais pu l'écrire, a dit la patronne du Rassemblement National au ministre de l'Intérieur. Vous êtes trop molle, a rétorqué Gérald Darmanin, tandis que Jean-Luc Mélenchon tentait de monopoliser l'attention sur une autre chaîne. On y reviendra avec les grandes voix à partir de 18h30. Et puis entre 19h et 20h, c'est le club des idées d'Europe Soir. Mélissa, Karine, Bianca seront avec nous. Elles nous raconteront comment le Covid gâche leur vie depuis près d'un an. Ce fameux Covid long qui n'est pas encore reconnu officiellement comme une maladie, qui touche aussi les enfants et qui laisse les médecins assez désemparés. Mais on verra que les choses sont en train de bouger. Rendez-vous donc à partir de 19h20. Mais avant cela, l'info avec le journal présenté par Christophe Lamarre. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Isabelle.
Il est 18h, vous écoutez Europe 1.
Une seule dose de vaccin pour les personnes qui ont déjà été infectées par le coronavirus, c'est la recommandation de la Haute Autorité de Santé.
Et la France est le premier pays à le proposer. Une seule injection qui pourrait permettre d'accélérer la campagne de vaccination. Invitée de ce journal dans un instant, Elisabeth Bouvet, elle est la présidente de la commission technique de vaccination de la Haute Autorité de Santé.
La Moselle s'inquiète de la multiplication des cas de contamination aux variants sud-africains et brésiliens. Ils représentent de 35 à 40% des nouvelles infections.
Olivier Véran était sur place aujourd'hui. À Metz, le ministre de la Santé qui promet davantage de vaccins, mais il ne veut pas se précipiter sur la fermeture des écoles, même si les discussions vont se poursuivre.
Le début des vacances d'hiver pour la zone C, cela concerne notamment Paris et Toulouse. On vous parlera de ce boom des réservations de dernière minute à la SNCF.
Marcelo Bielsa, au Prud'homme, l'ancien entraîneur de Lille, réclame 19 millions d'euros d'indemnité au club nordiste.
Il fait très froid, mais lui n'a peur de rien. Un médecin vante les mérites de la nage en eau glacée. C'est aussi le champion du monde de la discipline. Et puis la Bourse de Paris qui termine en hausse de 0,6% à 5703 points.
Bonsoir Anissa Haddadi.
Bonsoir Isabelle.
La météo avec vous, encore de nombreuses vigilances.
Oui, nous avons 28 départements Isabelle en vigilance orange, 3 départements en Bretagne pour neige verglas, la Charente-Maritime est en vigilance orange, crue inondation et puis 11 départements du centre-est, de la Creuse jusqu'à la Savoie. Épisode de neige très important qui a commencé il y a une heure maintenant du côté de Grenoble et de Lyon. Il va neiger très fort dans ce secteur. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est une question qui se pose depuis le début de la campagne vaccinale. Faut-il traiter différemment les patients qui ont déjà été infectés par le Covid ?
Et la Haute Autorité de la Santé vient de trancher sur la question. Une seule dose suffit pour ce type de patient, Anne Le Gall ?
Oui, une seule dose de vaccin, car chez ceux qui ont déjà développé le Covid, le système immunitaire est entraîné à réagir face au virus. Cette réponse a juste donc besoin d'être réactivée. En gros, le fait d'avoir eu la maladie remplace la première dose et ces anciens patients n'ont besoin que d'un rappel. Cette recommandation doit encore recevoir l'aval du gouvernement. Elle vaut pour les 3 vaccins utilisés aujourd'hui en France. Par ailleurs, à quel moment faudra-t-il injecter cette dose unique ? C'était l'autre question que devait trancher la Haute Autorité de Santé. Jusqu'ici, les experts parlaient d'un délai de 3 mois après le début des symptômes. Mais au vu des dernières données, la HAS estime désormais que la vaccination peut intervenir plus tard, dans un délai de 3 à 6 mois et si possible, 6 mois après la maladie.
Anne Le Gall du service santé d'Europe 1.
Et nous sommes en direct avec Elisabeth Bouvet, présidente de la commission technique de vaccination de la Haute Autorité de Santé. Bonsoir.
Bonsoir.
Une seule dose finalement, c'est donc ce que vous recommandez désormais, une seule dose pour ceux qui ont déjà été infectés par le coronavirus.
Et la France est la première à faire cette recommandation, mais pourquoi ?
Pourquoi en fait ? Je ne sais pas pourquoi on est les premiers. Enfin, faut remarquer que nous sommes les premiers. Beaucoup de gens ont déjà remarqué que les personnes qui avaient déjà été infectées, quand on les vaccinait, eh ben, ils remontaient très très vite leurs anticorps, comme s'ils avaient déjà eu une première dose de vaccin. Donc, il nous paraît logique de ne proposer qu'une dose de vaccin chez ces personnes-là. Et en plus, ce qui nous paraît important aussi de signaler, c'est qu'il n'y a pas de raison de les vacciner rapidement après l'infection, puisqu'ils sont protégés au moins pendant 3 mois, probablement au moins 6 mois. Et ça, toutes les données convergent vers ça. Et donc, à ce moment-là, si ces personnes sont priorisées actuellement, puisqu'on est encore dans une période où on priorise les doses de vaccins, si les personnes sont priorisées, il faut attendre 3 à 6 mois pour les vacciner et les vacciner avec une seule dose de vaccin.
Mais alors, il faut être sûr d'avoir eu le Covid. Est-ce qu'il faut l'avoir eu récemment ?
Non. Si quelqu'un qui aurait eu le Covid il y a 9 mois, par exemple, si on considère qu'il faut le vacciner maintenant parce que il a des facteurs de risque de faire une forme grave, si c'est quelqu'un de 75 ans, par exemple, eh bien, on ne lui fera qu'une dose de vaccin.
Mais quand on a eu des symptômes qui évoquent le Covid, mais qu'on n'en est pas très sûr, alors est-ce qu'on a une ou deux doses dans ce cas ?
Écoutez, si on ne sait pas et qu'on n'a pas de preuve qu'on a fait le Covid, c'est 2 doses de vaccin parce qu'il y a le Covid, il n'y a rien de très très spécifique au Covid. C'est souvent des gens qui ont eu de la fièvre, un peu mal à la gorge, qui ont toussé. Si c'est pas prouvé, non. Si c'est prouvé, si par exemple ils ont eu à l'occasion de ça ou au décours de ça une sérologie qui a prouvé que c'était le Covid, puisqu'elle était positive, même si elle ne l'est plus actuellement, eh bien on peut considérer qu'ils ont fait effectivement le Covid et qu'à partir de la date où la sérologie était positive, au-delà de 3 à 6 mois, on peut les revacciner.
Elisabeth Bouvet, on entend déjà les critiques. Il y a ceux qui vont dire on nous dit qu'une dose suffit, mais c'est parce qu'on veut économiser les vaccins. Vous nous assurez que ça n'est pas le cas ?
Ah non, pas du tout. C'est pas du tout dans cet esprit-là. C'est dans l'esprit de faire ce qu'il y a de plus pertinent, c'est-à-dire de ne pas faire trop de vaccins à des gens qui n'en ont pas besoin. Et c'est vraiment la constatation qui a été faite par tous les immunologistes et les personnes qui vaccinent de voir qu'effectivement, on n'a pas besoin de 2 doses de vaccins puisqu'il y a une mémoire immunitaire, comme ça a été très bien dit tout à l'heure. Il y a une mémoire immunitaire qui garde la mémoire donc de ce virus qui a provoqué une infection, ce qui fait qu'une seule dose est tout à fait suffisante. Et donc, ce n'est pas du tout pour faire des économies de vaccins. C'est au contraire pour protéger bien les gens et ne pas les surprotéger et ne pas faire des choses inutiles chez eux.
Le gouvernement suit en général l'avis de la Haute Autorité de Santé. Ça veut dire que c'est une mesure qui pourrait être annoncée très rapidement ?
Écoutez, je ne sais pas. Enfin, ce qui est vraisemblable, c'est que nous, on le recommande. Je pense que les médecins vont l'appliquer, ceux qui vaccinent. Je vous signale aussi, ça me paraît extrêmement important, que cette proposition a été faite avec la recommandation des travaux de la Société de pathologie infectieuse de langue française. Donc, les infectiologues, qui sont ceux qui vaccinent actuellement le plus en France, en tout cas dans les établissements de santé. Donc, je pense que cette mesure sera probablement suivie, car en plus, nous savons qu'elle recueille l'approbation de beaucoup d'experts de tous côtés, immunologistes, virologues en France.
Et donc, sans doute bientôt, l'adhésion du gouvernement. Merci beaucoup, Elisabeth Bouvet, présidente de la commission technique de vaccination de la Haute Autorité de Santé, d'avoir été en direct avec nous ce soir sur Europe 1.
L'épidémie, il en est encore question, Isabelle, en Moselle, où l'inquiétude grandit face à la menace, cette fois des variants brésiliens et sud-africains.
Oui, 304 contaminations à ces 2 souches sont apparues ces 4 derniers jours dans ce département. Ça représente près de 40% des nouvelles infections, c'est-à-dire presque 10 fois plus que dans les autres départements français.
Oui, et plusieurs élus réclament des mesures fortes pour éviter une nouvelle vague, soit un reconfinement, soit un allongement des vacances scolaires. Le ministre de la Santé s'est rendu sur place pour en discuter. Olivier Véran, qui ne veut pas trancher la question tout de suite et préfère se laisser du temps.
Les premières conclusions tendent à attester l'hypothèse qu'il s'agit bien de variants d'origine sud-africaine. J'ai annoncé d'abord que nous voulions intensifier la politique de test sur le territoire de Moselle. Par ailleurs, je vais renforcer la politique de vaccination dans le département de Moselle. Faut-il des mesures de protection supplémentaires ? Plusieurs propositions ont été faites sans qu'il se dégage nécessairement de consensus. Je vais désormais continuer la consultation, notamment discuter de la question des écoles avec mon homologue de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Et je me suis engagé à revenir très rapidement vers les élus du territoire pour envisager avec eux de pousser la concertation sur des mesures éventuelles si nous estimions qu'elles devaient être nécessaires.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, à Metz, au micro européen de Diane Berger. Les vacances scolaires qui débuteront la semaine prochaine pour les Mosellans, à Paris comme à Toulouse en revanche, eh bien, elles commencent ce soir.
Et vous serez déjà nombreux sur les routes. Attention au verglas et à la neige. Météo France a placé une 30aine de départements en vigilance orange, neige, verglas et grand froid. Les routes pourraient être particulièrement glissantes du côté de l'Auvergne et de Rhône. Rhône-Alpes.
Et certains vacanciers avaient peut-être anticipé ces difficultés sur les routes. Toujours est-il que beaucoup se sont précipités sur les trains. La SNCF a enregistré un boom des réservations de dernière minute. On va voir comment ça se passe d'ailleurs dans les gares tout de suite, et notamment à la gare de Lyon, à Paris, où l'on vous retrouve, Zoé Pallier. Est-ce que les quais sont bondés ?
Oui, beaucoup de monde, surtout devant les quais des trains en direction de Grenoble et de Nice. Mireille a déjà ses chaussures de neige, pas prête à sacrifier ses vacances dans les Alpes malgré la fermeture des remontées mécaniques. Mireille qui est même disposée à rester confinée dans son chalet en cas de nouvelle annonce du gouvernement.
On va essayer de skier, faire du ski de rando et du ski de fond. Paris actuellement, c'est vrai que j'arrive un peu à saturation. Il y a une envie réelle de montagne, envie de bouger, de voir un autre paysage. C'est une grosse bouffée d'air.
Alors vous le disiez Isabelle, les agents de la SNCF le confirment, beaucoup ici ont réservé leur billet au dernier moment. C'est le cas de Marie, décision prise il y a 2 jours.
C'est un peu du dernier moment, je vais rejoindre ma famille en Franche-Comté qui vivent là-bas. Donc je vais rejoindre ma grand-mère, mes oncles et tantes. Je vais les voir parce que je me dis si je suis confinée, je ne pourrai plus les voir après.
Et dans la foule, certains ont glissé un ordinateur dans leur bagage pour télétravailler depuis la campagne pendant que les enfants profitent des vacances.
Eh bien voilà, bonnes vacances à eux, Zoé Pallier, en direct de la gare de Lyon à Paris.
Et si vous voulez profiter de ces vacances pour faire les boutiques, eh bien c'était une demande des commerçants. Le gouvernement prolonge les soldes de 2 semaines, c'est-à-dire jusqu'au 2 mars.
Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
18h12, c'est la suite du journal de Christophe Lamarre sur Europe 1. Alors on savait que Marcelo Bielsa n'était pas homme à renoncer facilement. Eh bien l'ex-entraîneur de Lille veut solder ses comptes avec son ancien employeur.
L'Argentin réclame plus de 18 millions d'euros d'indemnité à Lille pour un licenciement qui, estime-t-il, a nui à son image et à sa notoriété. Lionel Gougelot, Marcelo Bielsa n'était pas présent physiquement puisqu'il est resté en Angleterre, mais il a pris le relais de ses avocats pour défendre sa cause.
Effectivement, on attendait un Marcelo Bielsa combatif et rigoureux, mais après 3 quarts d'heure d'un plaidoyer un peu laborieux, il faut bien le dire, tout cela par visioconférence en espagnol avec traduction simultanée, eh bien on peut se demander si l'ancien entraîneur du LOSC a convaincu le Conseil des Prud'hommes du caractère abusif de son licenciement, alors que le LOSC pointait à l'époque en 19e position au classement. Il affirme avoir été victime de harcèlement de la part de ses dirigeants de l'époque. Il fallait, dit-il, me déstabiliser pour m'obliger à démissionner, mais Bielsa s'égare dans ses explications, évoque ses désaccords sur les transferts de joueurs, accable le responsable du recrutement de l'époque, Luis Campos, et après 45 minutes de monologue sur les arcanes du foot, eh bien la présidente du Conseil des Prud'hommes lui coupe finalement la parole. Frustrée et agacée, El Loco conclut « J'ai subi des agressions et vous ne me permettez pas de compléter mon exposé ». Auparavant, c'est son avocat qui avait plaidé la validité d'un pré-contrat, l'autorisant donc à réclamer effectivement près de 19 millions d'euros d'indemnité. Chiffre record pour le foot français. L'avocat du LOSC, lui, balaye l'argument. Le contrat officiel déposé à la Ligue professionnelle ne comportait pas cette clause. Et Marcelo Bielsa est tout sauf une victime. Le jugement des prud'hommes sera rendu le 2 juillet prochain.
Merci beaucoup Lionel Gougelot en direct de Lille. Allez, on va prendre le frais. Le froid même, il paraît que ça nous ferait du bien en ce moment. Avec un champion de la nage en eau glacée. L'eau glacée qui, paraît-il, Christophe, n'a pas son pareil pour lutter contre le coronavirus.
Ben voilà, le froid, notre meilleur allié contre le virus. C'est le théorème du docteur Alexandre Fuseau. Oui, cela ne vous dit rien, moi non plus, mais dans les pays nordiques, l'homme est connu sous le nom d'Ice Doctor, docteur glace en français. Dans le texte, il défend les vertus de la natation en eau glacée, et voilà un homme qui sait de quoi il parle, Simon Rubin.
En France, il est médecin généraliste dans l'heure. Mais en Europe du Nord, c'est une méga star. Et pour cause, Alexandre Fuseau est champion du monde de natation en eau glacée. Il est le nageur le plus rapide dans des eaux à moins 5 degrés et au-delà. Vous entendez là une épreuve de ces championnats du monde qui se déroulent dans des bassins entourés de neige et de glace. Alors aujourd'hui, aidé par des professeurs de médecine, des médecins du sport, le docteur Alexandre Fuseau veut analyser les bienfaits de la natation en eau glacée sur le corps, un sujet qu'on connaît peu. Cette pratique doperait la production hormonale responsable du bien-être et plus intéressant encore, cela permettrait de doper les globules blancs, les défenses immunitaires.
Réagir contre le froid ou réagir contre les bactéries provoque une stimulation des mêmes mécanismes. On estime que l'augmentation de globules blancs est autour de 40% chez les nageurs en eau glacée. C'est une espèce de vaccin naturel en quelque sorte. Et effectivement, les gens qui font de la nage en eau glacée n'ont plus d'infection, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de rhume, plus de problèmes de rhinopharyngite, de bronchite pendant tout l'hiver.
La nage en eau glacée qui agresse le corps stimulerait donc ses défenses exactement comme un vaccin. Et si vous voulez vous y mettre, prudence, le docteur Alexandre Fuseau conseille de démarrer avec des bains à 10 degrés. degrés et d'y aller petit à petit.
Effectivement, Simon Rubin du service des sports, même à 10 degrés, c'est pas très chaud et c'est pas très conseillé hein, si vous n'êtes pas sportif de haut niveau.
Ah, effectivement, vous pouvez mieux quand même éviter. Tiens, des sportifs de haut niveau, il y en a plein à l'Open d'Australie. On parle tennis et c'est terminé pour les Français, Isabelle.
Oui, malheureusement, Adrian Manarino chez les hommes et Fiona Ferro chez les femmes ont été éliminés. Il n'y a donc plus de Français à Melbourne et il n'y a plus de spectateurs non plus.
Oui. Alors ça, ce que vous entendez, ce sont les sifflets des spectateurs de la Rod Laver Arena. Il est 23h30 hier et le huis clos débute dans une demi-heure. Mesdames et messieurs, veuillez quitter la scène, enfin plutôt le stade, et tout ça en plein match, sur le court. Novak Djokovic face à l'Américain Taylor Fritz. Voilà, on ne sait pas si ça a perturbé numéro 1 mondial, mais il lui a quand même fallu 5-7 pour venir à bout du 31e mondial. La réalité, c'est que le tournoi est à nouveau sous cloche jusque mercredi prochain. Et vous savez pourquoi, Isabelle, 5 jours de huis clos pour empêcher le virus de se propager. Voilà.
Oui, forcément. Merci Christophe Lamarre. On vous retrouve à 18h30 pour le rappel des titres et à 19h, bien sûr, pour un nouveau journal. Pour l'heure, on vous retrouve Vanessa Haddadi pour la météo et vous nous dites de faire très attention aux pluies verglaçantes.
Oui, les conditions de circulation sont vraiment très compliquées dans de nombreuses régions françaises, Isabelle. Demain, nous avons une nouvelle perturbation qui arrive par la Bretagne avec toujours un risque important de pluies verglaçantes, en particulier sur les Côtes d'Armor, l'Ille-et-Vilaine et le Finistère, où là, demain matin, ça va vraiment glisser, même cette nuit, imprudence. Partout ailleurs, le ciel est assez dégagé et puis au fil des heures, le ciel va se couvrir à l'ouest avec des Hauts-de-France jusqu'aux Pyrénées. Un ciel très gris, mais le temps reste sec. C'est une perturbation peu active qui va venir juste nous apporter un plafond gris au-dessus de la tête. Sur la moitié est, le soleil persiste, encore une belle journée. Dans le sud, le Mistral souffle toujours. Et les températures, elles restent encore très froides demain, avec moins 10 à 8 degrés du nord au sud demain matin. Moins 10 pour Strasbourg, moins 5 à Paris, 2 à Nîmes et 8 à Perpignan. Et puis dans l'après-midi, toujours des gelées dans l'est, avec moins 2 à Belfort, 0 à Metz, 2 petits degrés pour Paris, 7 à Lorient, 10 à Toulouse, 13 pour Ajaccio et 15 pour Perpignan. Isabelle, dans un instant, je vous propose de revenir sur cet épisode neigeux qui est en train de toucher Lyon et sa région. Il neige très fort, on attend jusqu'à 10 cm, je vous en parle à 18h30.
C'est important, effectivement. Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, désolée, mamie ne peut pas garder les enfants. Elle est partie en week-end avec son nouvel amoureux. On parle de l'amour après 50 ans et de ses conséquences sur la vie familiale. À tout de suite. C'est l'heure de l'invité d'Europe Soir et à 48 heures maintenant de la Saint-Valentin, nous allons parler d'amour ce soir. Bonsoir Anne Solaz.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse et avec l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, vous avez réalisé une enquête très sérieuse et très intéressante sur un phénomène de société, l'amour dans la seconde moitié de la vie, grosso modo après 50 ans. Alors ça peut paraître un sujet léger, mais on va voir qu'en réalité c'est beaucoup plus que ça. Ce sont les fondements même des familles qui sont parfois bouleversés. Quand je dis phénomène de société, c'est parce que refaire sa vie, retomber amoureux ou avoir des aventures tout simplement, c'est quelque chose qu'on voyait beaucoup moins chez les générations précédentes ou alors qui était tabou. Aujourd'hui, Anne Solaz, on assume cette envie, ce besoin d'être heureux, amoureux et même actif sexuellement après 50 ans.
Alors oui, le paysage un peu des quinquagénaires, les trajectoires conjugales des quinquagénaires a pas mal changé ces dernières années. Aujourd'hui, environ un quart des quinquagénaires ont déjà connu deux unions au moment de leur anniversaire des 50 ans. Donc c'était pas le cas de la génération de leurs parents. Ils étaient seulement 10% à avoir connu deux unions. Donc aujourd'hui, les trajectoires des quinquagénaires sont plus diversifiées avant et elles vont aussi se diversifier après. Donc ils vont plus souvent connaître aussi des ruptures après 50 ans et des remises en couple.
Ouais, ce que vous nous dites, c'est que par rapport à la génération de nos parents et encore plus de nos grands-parents, les quinquas d'aujourd'hui ont souvent déjà au cours de leur vie eu plusieurs partenaires. Et le plus frappant peut-être dans votre étude, Anne Solaz, c'est cette disparité entre les hommes et les femmes, parce que le marché de l'amour, entre guillemets, le marché de l'amour après 50 ans est très déséquilibré.
Alors oui, effectivement. Alors à 50 ans, si on regarde un peu le nombre de partenaires potentiels qu'on a à chaque âge, finalement à 50 ans, il y a à peu près un homme pour une femme, alors qu'à 75 ans, il y a trois femmes disponibles pour un homme. Donc le marché est très déséquilibré. Cela tient à deux choses. La différence d'espérance de vie entre hommes et femmes. Donc il y a plus de veuves que de veufs au même âge. Et aussi le fait que les hommes se mettent plus souvent en couple avec des femmes plus jeunes.
Oui, c'est plus facile de se recaser entre guillemets si on est un homme qu'une femme, quel que soit l'âge. Et plus on avance en âge, c'est encore plus difficile de trouver un partenaire, surtout si on est une femme.
Oui, alors on a effectivement de moins en moins de chances de reformer un couple après 50 ans, avec l'avancée en âge, et c'est particulièrement le cas pour les femmes.
Alors, il y a quelque chose aussi d'intéressant, c'est que les quinquas ne veulent pas forcément retrouver dans leur nouvelle vie ce qu'ils avaient dans l'ancienne, ce qu'ils ont quitté dans l'ancienne, la routine du quotidien.
Oui, alors il y a aussi, effectivement, en particulier les femmes ne sont pas forcément toujours désireuses de reformer un couple co-résident.
C'est-à-dire d'habiter ensemble.
Peut-être qu'elles peuvent préférer d'autres formes de vie conjugale où on a une relation intime, mais on vit chacun chez soi.
Alors, on recherche quoi, puisqu'on ne veut pas forcément habiter ensemble dans cette nouvelle vie? De quoi est-ce qu'on a besoin?
Bon, on peut vouloir partager des loisirs, l'amour,
la complicité,
voilà, mais sans peut-être partager les tâches routinières et la répartition des tâches domestiques, qui est souvent en défaveur des femmes.
Du plaisir, mais fini les obligations.
Oui, d'une certaine manière.
Si je dis ça, c'est parce qu'après 50 ans, généralement, la question d'avoir des enfants ne se pose pas. Donc, on ne construit plus une famille, mais on construit un couple.
Oui, c'est vrai. Alors, la question des enfants ne se pose pas, mais par contre, il y a des enfants des unions antérieures et qui, parfois, peuvent affecter un peu les chances de remise en couple. Donc, par exemple, quand une femme a la garde de ses enfants à 50 ans, elle sera peut-être plus réticente à leur imposer un beau-père en se remettant en couple. Donc elle va peut-être attendre que les enfants partent pour prendre cette décision.
Est-ce que le regard de la société, Anne Solaz, a changé sur ces unions ou ces relations de la deuxième moitié de vie? Est-ce qu'il y a un regard bienveillant?
Le divorce étant devenu un événement finalement assez commun pour ces générations-là, parce que même si on ne l'a pas vécu soi-même, on a vu des amis, des proches divorcés. Donc il est finalement moins stigmatisant aussi. Et donc... On peut prendre cette décision quand on a une relation, par exemple, insatisfaisante. On n'a pas forcément envie de la poursuivre toute sa vieillesse.
Et c'est plus facilement accepté. Beaucoup de sites de rencontres ont bien compris qu'il y avait un marché juteux. Hein. Ils ont ouvert des sites dédiés aux seniors, entre guillemets, parce qu'à cet âge-là, c'est plus difficile encore de s'en remettre au hasard.
Oui, parce qu'une grande partie des couples se rencontrent sur le lieu professionnel. Donc effectivement, quand on est à la retraite, on a moins cet accès-là. Mais après, il y a d'autres lieux où les gens peuvent se rencontrer, dans les associations. Voilà,
alors. Et alors, vous l'évoquiez au tout début de cette interview, les divorces des seniors, eux aussi, sont en hausse. Ça veut dire qu'on a beau avoir l'expérience déjà de la vie de couple, on a beau connaître les erreurs à ne pas faire, ça n'empêche pas les séparations.
Non, mais on peut aussi le voir d'un côté positif, ça n'empêche pas les séparations, mais on peut aussi se dire que voilà, on envisage aujourd'hui de ne pas rester dans une relation satisfaisante.
Mais vous avez des chiffres sur le pourcentage de séparation, par exemple, après 60 ans?
Le nombre de séparations a beaucoup augmenté, en fait. Donc, les séparations des hommes de plus de 60 ans ont été multipliées par 4 en 20 ans, et celles des femmes par 3. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fréquent de divorcer après 60 ans.
Je le disais tout à l'heure, un père ou une mère de 50 ans ou de 60 ans qui divorce et qui refait sa vie, ça impacte souvent toute la famille. Autrefois, les grands-parents étaient un vrai soutien. Ils gardaient les petits-enfants, ils le recevaient l'été dans la maison familiale. Mamie faisait des gâteaux, papy vous apprenait à pêcher. Aujourd'hui, papy et mamie, ils ont une vie souvent de leur côté et donc beaucoup moins de temps pour leur famille.
Oui, alors reformer un couple n'implique pas forcément qu'on va moins s'occuper des petits-enfants. Et au contraire, finalement, quand il y a des recompositions des grands-parents, des recompositions familiales, ça fait plus de grands-parents. Il peut y avoir des belles histoires de grand-parentalité entre le nouveau copain de mamie et ses petits-enfants.
Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, les petits-enfants dont les grands-parents ont divorcé, avec un peu de chance, si chacun a refait sa vie, ils ont 8 grands-parents. Ça change justement le regard des enfants et des petits-enfants sur leurs grands-parents. C'est pas forcément quelque chose de facile à vivre.
Bon, je pense que les enfants s'adaptent beaucoup plus que les adultes. Donc, ils ont, voilà, au lieu d'avoir 4 grands-parents, ils en ont 8, comme vous le dites. C'est tant mieux, on a plus de cadeaux, on a plus de relations.
Est-ce que c'est attendrissant, finalement, pour un enfant ou un petit enfant de voir que sa grand-mère ou son grand-père refait sa vie? Ou est-ce que ça peut être gênant et inconfortable?
Moi, je ne suis pas vraiment... J'ai du mal à me mettre à la place d'un enfant pour répondre à cette question. Mais je pense que les enfants s'adaptent très bien à beaucoup de situations. Et celle-là, en particulier, ne va pas les gêner.
En tout cas, aujourd'hui, avec ces séparations, ces remariages ou ces nouvelles unions, c'est aussi la disparition d'un cocon, souvent d'une maison familiale, qui était un repère, qu'on est parfois obligé de vendre, la maison où on retrouvait les cousins, par exemple.
Alors oui, c'est vrai que bon, les divorces impliquent souvent des chocs financiers, assez importants, hein, plus pour les femmes que pour les hommes. Souvent une vente du patrimoine du couple, donc des déménagements. Donc ça, c'est sûr que c'est important aussi. Et d'autant plus que quand on divorce à des âges avancés, on a moins de possibilités de reprendre une activité professionnelle. Donc on dépend beaucoup de ce qu'on a accumulé pendant
son patrimoine. Merci beaucoup Anne Solaz d'être venue nous décrypter cette étude de l'INED sur l'amour dans la seconde moitié de la vie. On est loin des papiers mamie, en tout cas, à qui s'adresse notre Premier ministre Jean Castex. Et à vous tous qui nous écoutez, quel que soit votre âge, on vous souhaite de passer une bonne Saint-Valentin dimanche. Même à ceux qui trouvent ça ringard et qui disent à juste titre qu'il n'y a pas besoin d'un jour spécifique pour se dire qu'on s'aime. Et même aux célibataires, parce que cette interview nous montre qu'il faut toujours croire en l'amour.
Europe 1, Isabelle Millet.
Il est 18h30, merci à vous d'écouter Europe 1. C'est l'heure du rappel des titres avec vous, Christophe Lamar.
Une seule dose de vaccin pour les personnes qui ont déjà été infectées par le coronavirus, c'est la recommandation de la Haute Autorité de Santé. Pas de décision dans l'immédiat pour la fermeture des écoles en Moselle, confrontée à une augmentation très importante des contaminations aux variants sud-africains et brésiliens. Olivier Véran veut poursuivre la concertation. Après Perpignan, Issoudun ouvre son musée municipal à partir de demain. Dans un communiqué, le maire PS de la ville estime que les musées sont des lieux de culture essentiels. Leur fermeture permanente et totale est devenue manifestement disproportionnée. Faut-il y voir un effet Brexit ? Londres perd son statut de première place boursière européenne au profit d'Amsterdam. Les investisseurs fuient la City pour se reporter sur le continent européen. Le volume d'actions échangées dans la capitale néerlandaise dépasse les 9 milliards d'euros par jour en moyenne, contre 8,5 milliards pour Londres.
Merci Christophe Lamar. L'info revient avec vous à 19h avec un nouveau journal complet. Anissa Haddadi, je me retourne vers vous. La neige tombe actuellement dans le centre-est. Hein.
Oui, depuis un peu plus d'une heure, Isabelle, maintenant, dans le Dauphiné, entre l'Isère et la Savoie, la neige tient bien au sol à cause des températures négatives. À Lyon, la pluie s'est transformée en neige. Attention au verglas. Alors, il devrait neiger dans le centre-est jusqu'à 22h. D'ailleurs, des restrictions de circulation sont mises en place du côté de l'Isère. On voit des vidéos où la circulation devient de plus en plus difficile sur l'autoroute A7, notamment il neige très fort entre Valence et Lyon. Demain, nous aurons encore quelques flocons du côté du Forez, du nord du Massif central jusqu'au Finistère, en passant par le Poitou. Là, les sols seront très glissants encore demain tout au long de la journée. Et puis sur la moitié ouest du pays, le ciel sera très couvert, beaucoup plus lumineux à l'est. Les températures, elles sont stationnaires quasiment comme aujourd'hui, moins de 10 à 8 degrés le matin. Et moins 10 à Strasbourg, moins 4 pour Paris et 8 pour Perpignan. Ça me glace, rien
que
de les lire.
Oui, j'imagine, moi aussi. Si vous êtes sur la route, en tout cas, que vous rentriez chez vous ou que vous partiez en vacances, faites très attention. Ceci dit, vu qu'il est 18h32, normalement,
tout le monde est à la maison.
Et tout le monde est à la maison. Merci Anissa, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
À 18h32, comme tous les soirs, on va ouvrir maintenant le débat des grandes voix du vendredi avec ce soir à mes côtés Pascal Pogam, directeur adjoint de la rédaction de L'Express. Bonsoir.
Bonsoir.
Guillaume Tabar, rédacteur en chef et éditorialiste au Figaro. Bonsoir.
Bonsoir.
Et l'historien Jean Garrigue.
Bonsoir.
Bonsoir et merci à tous les trois. Alors la question de l'islamisme était hier soir au cœur d'un débat télévisé sur France 2. Ça ne vous a pas échappé, entre le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la patronne du Rassemblement National, Marine Le Pen, candidate à la prochaine présidentielle. Débat qui a 15 mois justement de cette présidentielle étaient entièrement consacrés à des sujets que tous les deux maîtrisent théoriquement parfaitement, séparatisme, immigration, insécurité. Alors on imaginait beaucoup de choses, mais on ne s'attendait pas forcément à ce qu'on a entendu.
J'aurais pu le signer,
non,
ce livre.
Ça va aller.
Vous décrivez là l'islamisme de manière extrêmement claire.
Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on vient à être quasiment un peu dans la mollesse. Je vous trouve, il faut vous reprendre des vitamines, vous n'êtes pas assez dur.
Voilà, j'aurais pu écrire votre livre, vous êtes trop molle. D'abord les grandes voix, est-ce que vous avez trouvé qu'il y a eu un vainqueur à ce débat, Guillaume Tabar ?
Non, c'est aux téléspectateurs de choisir leur vainqueur. Je pense que chacun a obtenu des choses et chacun s'est fait avoir d'une certaine manière. Et je crois que la phrase décisive, c'est celle qu'on vient d'entendre. Marine Le Pen qui dit à Gérald Darmanin, votre livre, j'aurais pu le signer. D'une certaine manière, on pourrait se réjouir que le constat contre l'islamisme soit partagé par tout le monde, quels que soient les clivages politiques. Après, dans une guerre, tout le monde s'unit au-delà de ses différences. Mais clairement, c'est un baiser de Judas parce que, en faisant ça, eh bien, elle hérisse la gauche. Et elle hérisse la gauche, non pas contre elle, ça, elle s'en fiche, mais contre Gérald Darmanin et derrière lui,
Emmanuel Macron.
Contre Emmanuel Macron. Il ne faut quand même pas oublier que Le grand débat aujourd'hui, c'est en cas de second tour réitéré Macron-Le Pen. Est-ce que cette fois-ci, comme en 2017, les électeurs de gauche voleraient au secours de quelqu'un qu'ils avaient en partie élu en 2017, mais dont ils considèrent aujourd'hui qu'il s'est droitisé, selon le point de vue? C'est l'un des enjeux. Et en affichant une forme, non pas de connivence, mais de convergence, on va dire, à tout le moins sur un constat, ça peut durcir ces électeurs de gauche contre Emmanuel Macron. Vous voyez, on parle souvent de triangulation. Vous savez, quand quelqu'un essaye d'aller chercher les électeurs d'en face, là, c'est une sorte de triangulation inversée. C'est-à-dire que le but de Marine Le Pen n'est pas d'aller chercher des électeurs à gauche, mais de dissuader ces électeurs de gauche d'aller voter pour celui qui sera son concurrent.
Vous êtes d'accord, Pascal Paugam? C'est un argument que la gauche va certainement utiliser. Emmanuel Macron, un ministre de l'Intérieur, dont une dirigeante d'extrême droite partage les écrits.
Oui, mais finalement, est-ce que ça ennuie tant que ça, Gérald Darmanin? Je n'en suis pas sûr. Hier soir, finalement, pour lui, la priorité, c'était de montrer que sur ces sujets régaliens, et en particulier sur le sujet de l'islamisme radical, il était extrêmement ferme. Il pouvait même être plus ferme que Marine Le Pen à certains moments de l'émission, tout en restant dans le cadre de l'état de droit. Pour lui, je pense qu'il l'a suffisamment martelé pendant toute la soirée. C'était l'enjeu principal de la soirée. Alors, de ce point de vue-là, que pense la gauche?
Il a quand même eu un petit moment, un petit rictus sur son visage quand elle lui a dit ça. Ça l'a surpris, visiblement.
Sur le livre,
oui,
sur
le livre.
Ouais, comme le disait Guillaume, c'était le baiser de Judas, le baiser de la mort, en quelque sorte, qui avait été très préparé par Marine Le Pen et qui était censé être un moment de bascule. Effectivement, ça l'a ennuyé. Ça a été très court, cette réaction, cette gêne manifestée par Gérald Darmanin. Et ensuite, on va sans doute en reparler, c'est plutôt Marine Le Pen qui a été ennuyée par la suite du débat et qui est retombée dans ses travers.
Alors justement, Jean Garry, qu'est-ce que vous en pensez? C'est Marine Le Pen plutôt qui a été ennuyée dans ce débat?
Non, mais moi je ne veux pas faire de gagnant ou de perdant.
Non, c'est pas ce que je vous demande,
mais
vous êtes des observateurs.
Ce qu'elle a montré à nouveau, je dirais, malgré tout, c'est quand même une certaine fragilité dans la maîtrise des dossiers, dans la maîtrise des questions. C'était un des enjeux, je pense, pour elle de ce débat, de se recrédibiliser, parce qu'il faut bien dire ce qui s'était passé en 2017 avait été quand même fort, fort préjudiciable. Elle a été beaucoup plus calme, beaucoup plus posée, elle a donné une image beaucoup plus recentrée, ce qui est son intérêt politique, électoral, hein, en termes d'arithmétique électorale. L'intérêt, c'est de se recentrer pour essayer, lors d'un deuxième tour, d'aller un peu plus haut que ce que les sondages lui prédisent. Mais sur le plan de la crédibilité, il semble quand même qu'elle ait eu quelques petits soucis. Du côté de Gérald Darmanin, il y avait aussi le risque de tomber dans le piège du bonnet blanc, blanc bonnet, effectivement, comme vous le dites. Mais en même temps, pour Gérald Darmanin, l'équation est différente et, je dirais, opposée sur le plan électoral. C'est qu'il faut aller chercher, un peu à la manière de Nicolas Sarkozy en 2007, il faut aller chercher des électeurs du Rassemblement National. Donc voilà... C'était pour tous les deux un jeu assez subtil d'équilibre entre le maintien de leur position, la correction de leurs images. Il fallait aussi que Darmanin apparaisse lui aussi un petit peu plus calme par rapport à certains débats d'il y a quelques semaines. Et puis en même temps, essayer d'aller trouver, d'aller chercher de nouveaux électeurs. Voilà, ça a été au fond, j'allais dire, un débat relativement plat, pas passionnant, je pense, pour les spectateurs.
Ouais. Est-ce qu'elle a réussi quand même à apparaître plus présidentiable, Marine Le Pen, Guillaume Tabar?
Écoutez, je pense que ce qui était habile de sa part, c'était justement de montrer, lorsqu'elle commence à dire « Ah, j'étais déçu », elle pourrait dire « Je suis en colère contre votre texte, non, j'étais déçu », quand elle dit au gouvernement « Mais écoutez, reprenez quelques amendements qu'on vous propose », lorsqu'elle salue le discours des Mureaux, elle dit « Dans un grand discours », elle parle du président de la République qui va être son adversaire, elle va dire « Dans un grand discours ». Bon, donc clairement, elle voulait montrer qu'elle n'était pas dans une position sectaire, qu'elle n'était pas l'extrémiste qu'on veut décrire. Ça, je pense, c'est ce qu'elle cherchait. Est-ce qu'elle a réussi? Là où elle n'a pas réussi, je suis d'accord avec Jean Garrigue, avec Pascal Paugam, c'est que des approximations sont apparues lorsque ensuite, et ça, ça a été la stratégie de Gérald Darmanin, d'essayer de l'amener dans le concret des décisions, des solutions. Et c'est vrai que notamment, vous voyez, sur la reconduction des étrangers expulsés, mais dans des pays qui ne veulent pas les reprendre, comment on fait? Elle dit, on les garde pour l'instant, mais ce n'était pas très convaincant. Cela dit, dans ce match de la crédibilité, elle a montré des approximations, mais symétriquement, Gérald Darmanin, par moments, était difficilement convaincant. Lorsqu'il dit, écoutez, lorsque je suis né, il y avait, je ne sais plus quel chiffre qui cite, il dit en gros 7% d'étrangers en France. Aujourd'hui, on est toujours à 7%, donc vous voyez, ça ne bouge pas, c'est toujours la même proportion. Oui, sauf que chacun sait bien qu'au fur et à mesure, et c'est le jeu normal aussi d'un pays, au fur et à mesure que l'immigration progresse, il y a aussi des naturalisations, et une grande partie des étrangers qui sont arrivés depuis 82 sont devenus français, donc maintenant ils sont français de fait, mais ça montre bien quand même que la population évolue, et ça je pense que sur ce point-là, il était un peu plus faible.
Ouais. Je voulais revenir sur cet aspect plus présidentiable de Marine Le Pen. Pascal Paugam, on l'évoquait. Elle a lancé des « quand je serai présidente » et « n'allez pas trop vite », lui a répondu Gérald Darmanin. Elle s'est vraiment positionnée en candidate.
Elle s'est clairement
présidente.
Elle s'est clairement positionnée au-dessus de la mêlée, presque dans une stature de femme d'État à certains moments, effectivement. Et pour elle, tout l'enjeu, c'était de faire oublier ce fameux débat de 2017. Elle s'est entraînée pour ça, pour sortir de ces travers-là. Et de ce point de vue-là, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'en deuxième partie de débat, elle était retombée dans ses travers et avait plutôt perdu par rapport à l'échange avec Gérald Darmanin. C'est qu'il y a ces images qui sont ravageuses, ces fiches. On est retombé dans ces images.
Qu'elle avait cachées dans le livre de Gérald Darmanin.
Qui lui avait tant coûté en 2017 et Gérald Darmanin ne s'y est pas trompé. C'est-à-dire que quand elle a été mise en difficulté, on l'a sentie tâtonnante, fébrile. Et ça, évidemment, ça renvoyait à ces imperfections de 2017 et ce débat de l'entre-deux-tours.
Et est-ce que Gérald Darmanin, finalement, ne jouait pas par procuration, Jean Garrigue, le rôle du chef de l'État ?
Si, il était quand même dans cette posture. Et vous savez, il y a un sondage, alors on parle beaucoup du sondage qui les met quasiment, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, à égalité au second tour de l'élection et qui montre, ce qui est un fait, que certainement Marine Le Pen va monter par rapport à 2017. Mais il y a un autre sondage qui, moi, m'intéresse, qui peut-être a été moins relevé, qui montre que, je crois, seulement 20% des sondés estiment que Marine Le Pen ferait mieux qu'Emmanuel Macron, mais 42% estiment qu'elle ferait moins bien. C'est un décalage qui me semble très important en vue d'un second tour d'une élection présidentielle. Et ça montre quand même qu'il reste quand même tout un travail à faire de crédibilisation pour Marine Le Pen. Alors vous me direz, c'est un peu la même chose pour tous les concurrents potentiels de Macron, sauf un, qui d'ailleurs pas son concurrent, qui serait Édouard Philippe. Oui. Édouard Philippe est le seul qui ferait mieux que pire. c'est quand même très intéressant. Et je le répète, il me semble que là, c'était tout l'effort de Marine Le Pen, cette crédibilisation, ce recentrage. Mais il y a encore beaucoup de travail pour y arriver, à
mon sens. Vous êtes d'accord avec ça ? Vous acquiescez, Pascal Paugam ?
Oui, il y a encore beaucoup de travail. Il faudra qu'elle travaille le fond. Et honnêtement, hier soir, on était plus dans un combat de posture que sur un débat d'idées de très haut niveau. Et ça, dans les mois qui viennent, dans les mois qui nous séparent de l'élection présidentielle, c'est clair que Marine Le Pen devra travailler avec ces fameuses horaces dont on parle tant, ce groupe mystérieux de hauts fonctionnaires censés l'alimenter sur le programme et sur le fond. Eh bien, pour l'instant, on l'attend sur ce terrain. On ne voit pas venir grand-chose.
Guillaume Tabar, ça veut dire qu'il reste encore des stigmates de ce que l'opposition lui reprochait sur son manque de travail, sur son manque de fond sur les sujets ?
Bien sûr, mais au risque d'être un peu à contre-courant, je dirais que c'est peut-être pas la question la plus importante. Bien sûr, il faut travailler, bien sûr, il faut connaître ces dossiers et il faut qu'elle progresse, évidemment. Mais quand même, prenons l'histoire des présidences et des campagnes. Très souvent, les programmes sur lesquels un candidat est élu, à l'arrivée, soit ils ne sont pas tenus, soit ils ne sont pas tenables, soit ils sont démentis par l'actualité. Et à commencer par Emmanuel Macron, qui n'avait pas prévu de se prendre une crise. Donc, ce qui fait aussi un chef d'État, c'est sa capacité à gérer des situations imprévues et à s'adapter. C'est pas uniquement sur un programme qu'on est élu. Et bien sûr que la question de la crédibilité sera importante, mais ce qui va compter surtout, je pense, c'est ce climat politique, social, économique, culturel dans lequel on sera au printemps 2022. Si on est dans une configuration à nouveau d'un second tour Marine Le Pen contre Emmanuel Macron, le président sortant sera Emmanuel Macron. Donc le regard des Français, il va d'abord se porter sur ce président sortant. Et en se posant la question, est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on en change ? Et est-ce qu'on en change ? Après, on prend celui qu'on a. Donc, le premier tour est, je pense, plus important qu'on le dit aujourd'hui. On se focalise déjà sur le second tour. Mais si Emmanuel Macron devait être dans une position difficile dans un second tour, voire très difficile, la question c'est lequel de ses concurrents arrive en tête au premier tour. Et c'est là que le match, je pense, se joue.
Se jouera. Écoutez, on poursuit ce débat passionnant dans un tout petit instant. Restez avec nous. À tout de suite, les grandes voix.
1, Michel Denisot.
Tous les samedis, je demande à des personnalités de me parler des gens dont ils ne parlent jamais, mais qui ont marqué leur existence. Icônes. Cette semaine, ce sont les icônes et les élucubrations d'Edouard Baird qui s'invitent sur Europe 1.
Icônes par Michel Denisot.
On se retrouve donc demain à 8h45 dans Europe Matin Weekend et en podcast pour une version longue sur europe1.fr et toutes vos plateformes d'écoute.
IKEA.
Vous sentir bien chez vous est plus important que jamais. Vous voulez concrétiser vos projets ? Ça tombe bien, IKEA est là pour vous aider à les réaliser. Aménager le dressing de vos rêves, avoir une cuisine organisée comme celle d'un chef ? Jusqu'au 28 février, prenez rendez-vous gratuitement avec l'un de nos experts en conception à distance. Alors profitez-en et réservez votre créneau sur IKEA.fr.
Pour la Saint-Valentin, vous vouliez vous faire tatouer son prénom sur les reins. Mais Jean-Christophe, ouille, ça fait beaucoup de lettres. Avec Jeff de Bruges, inscrivez gratuitement votre message d'amour sur un délicieux cœur en chocolat. Jeff de Bruges, offrez du plaisir à partir de 12,60€ le cœur personnalisé. En boutique, en click and collect et par coursier.
Rendez-vous sur jeffdebruges.com. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Milleux.
18h45, on poursuit sur Europe 1 notre débat des grandes voix avec toujours à mes côtés l'historien Jean Garrigue, Guillaume Tabar, rédacteur en chef, éditorialiste au Figaro, et Pascal Pogam, directeur adjoint de la rédaction de l'Express. Alors on continue à parler de ce débat qui a eu lieu hier soir entre Gérald Darmanin et la patronne du Rassemblement National. On a évoqué tout à l'heure la posture de présidentiable de Marine Le Pen. Je voudrais qu'on revienne un peu sur le fond quand même, sur ce qui a été dit plus précisément hier soir. Vous le disiez tout à l'heure, Guillaume Tabar, elle n'a pas toujours été très claire, hein, Marine Le Pen. Alors, elle accuse l'exécutif de s'attaquer à toutes les religions au lieu de s'attaquer uniquement à l'islamisme. Mais en même temps, elle veut l'interdiction des ports des signes religieux ostentatoires, de toutes les religions dans l'espace public, mais au nom de la lutte contre l'islamisme. Et puis, elle s'en mêle aussi à un moment un peu les pinceaux sur la kippa. Tout ça n'était pas très clair, hein.
Ben, je pense que là où elle a été mise en difficulté, c'est dans sa volonté d'aller le plus loin possible, et de mon point de vue trop loin, dans la distinction de la question purement politique et idéologique de l'islamisme et de la dimension religieuse. Une fois que tout le monde a dit que ce n'était pas l'islam en tant que tel qui était condamné, qui posait un problème, etc., on est bien obligé de constater que dans l'islamisme, il y a islam, et que l'islamisme qui est un défi pour l'islam, il part quand même de cet islam. Et que là où il est prêché, c'est dans des lieux de culte qui sont des mosquées. Et ça, c'est Gérald Darmanin qui a dû lui rappeler, d'où un peu ce front renversé. Bon. Et je pense qu'en ayant établi cette distinction, je pense, trop radicale entre un fait politique et sa composante religieuse, ben voilà, après, elle s'est retrouvée coincée. Elle était obligée de prendre un peu les pieds sur la question de la kippa, parce que... Oui. Pour tenir jusqu'au bout son raisonnement qui était quand même bancal sur ce point-là.
Mais en même temps, Marine Le Pen, elle suit sa ligne, hein, sur le sujet. Ça fait plusieurs fois qu'elle prend la défense de l'islam en le séparant totalement de l'islamisme. Pascal Pogam, elle sait qu'une partie des musulmans peut se tourner vers elle, peut-être, aujourd'hui.
C'est son pari, en tout cas.
Et vous y croyez ?
J'avoue ne pas avoir d'avis sur cette question. Est-ce que j'y crois ? Il est clair qu'une partie de la population musulmane peut se retrouver dans un certain nombre de propos de Marine Le Pen et de son parti, en particulier les personnes qui vivent dans des quartiers difficiles et qui subissent au quotidien ce que produit l'islam radical. C'est une population qui est en demande de réaction très ferme de la part des autorités, qui n'est pas forcément satisfaite de ce qui est proposé par le gouvernement actuel et qui, pourquoi pas, peut trouver un certain nombre de propositions intéressantes dans la bouche de Marine Le Pen. Quant à savoir ce que ça pèsera à l'horizon d'un an, je suis incapable de vous le dire, mais c'est sûr qu'il y a une petite musique qui peut séduire une partie de cette population directement concernée par ces problématiques.
Marine Le Pen a joué hier la défense des cultes en général. Jean Garrigue, c'est le retour de l'extrême droite bigote ?
Non, pas forcément. En l'occurrence, je ne lui ferai pas ce procès, mais elle veut surfer sur cet article de la loi sur les principes républicains, ou loi sur le séparatisme, qui veut soumettre à autorisation l'enseignement, notamment dans les familles, et qui donc là peut faire réagir aussi un certain nombre de chrétiens. Bon, non, ça fait partie d'un des électorats traditionnels du Rassemblement National, mais c'est plus du tout le cœur de cible de Marine Le Pen. Donc je pense que c'est quelque chose qui fait partie de l'injonction critique qu'elle est obligée de porter sur les projets. Moi, ce qui me frappe, c'est que les critiques qui sont faites par Marine Le Pen sur notamment la loi séparatisme, sont exactement la symétrique des critiques qui sont faites de l'autre côté par Jean-Luc Mélenchon et les autres. Donc, ce qui veut dire que peut-être qu'au fond, cette loi, elle n'est pas si mauvaise que ça, parce qu'elle satisfait peut-être ceux qui sont un petit peu plus dans la modération. Mais c'est le jeu politique de l'opposition qui est celui de Marine Le Pen. Mais sur le fond, si vous voulez, on voit bien quand même qu'elle est un petit peu embêtée, parce qu'avec ce type de loi et avec ce qu'est la dynamique politique aujourd'hui menée par Darmanin, on vient quand même un petit peu braconner sur ces terres.
Oui, l'article 21 dont vous parliez, qui a été adopté cet après-midi, l'entend faire de l'instruction en famille l'exception, la règle restant l'école. Et puisque vous m'y amenez, Jean Garrigue, à Jean-Luc Mélenchon, on va parler de lui. Hier soir, il y avait sur France 2 Marine Le Pen face à Gérald Darmanin, donc, et puis contre-programmation au même moment sur C8, Jean-Luc Mélenchon, le patron des Insoumis, invité de Balance ton poste avec Cyril Hanouna. Alors, il a expliqué qu'il avait accepté l'invitation parce qu'il voulait protester contre le fait que le service public de la télévision installe un débat entre deux personnes qui sont d'accord et dont le but principal est de montrer du doigt les musulmans de ce pays. Il y a eu des échanges, parfois tendus avec les chroniqueurs, et une rhétorique. Le seul séparatisme qui vaille est celui des riches.
Le vrai séparatisme, c'est celui des riches. Lorsqu'ils créent leur quartier, lorsqu'ils sont entre eux, lorsqu'ils ne laissent pas les gens. Vous prenez des villes où vous avez 2% de logements sociaux contre la loi. La loi dit une chose et eux, ils font le contraire. Par contre, montrer du doigt ces malheureux musulmans en les soupçonnant d'être prêts à faire des mariages forcés, polygames et des certificats de virginité, ça ne vous dérange pas.
Voilà, deux visions du séparatisme. Hier soir, les grandes voix, il y avait France 2 et puis il y avait C8. Guillaume Tabar, est-ce que Mélenchon, finalement, il a réussi ce petit coup de com'?
Oh, il a réussi à faire parler de lui.
Oui.
Imaginez que France 2 ait décidé d'inviter Jean-Luc Mélenchon comme unique contradicteur de Gérald Darmanin. Je pense que Jean-Luc Mélenchon ne se serait pas offusqué de ce que les autres courants n'étaient pas représentés. Bah, il se trouve que là, c'était pas lui. Voilà, quand on fait un débat, faut bien choisir. Il a fait sa contre-programmation, c'est un coup de com'. Bon, c'est très bien. Alors, après, voilà, c'est le jeu. Après, sur le fond...
Sur le fond, ouais.
Là, on vient de l'entendre. Alors là, c'est... En matière d'amalgame, je pense qu'on ne peut pas arriver mieux. Je veux dire que il a tout mélangé, le social, le religieux. Si on veut dire que dans la société, oui, il y a des inégalités, il y a des injustices, il y a des choses à transformer, à réformer, etc. Évidemment. Et il y a des fractures qui sont sociales, il y a des fractures qui sont territoriales, il y a des fractures qui sont culturelles. À chaque fois, on peut dire que c'est du séparatisme et qu'il faut s'y attaquer. Oui, évidemment, mais c'est pas parce que un texte vient répondre à un problème donné, que c'est « on oublie les autres », etc. Genre, ça, c'était quand même clairement de la mauvaise foi.
Et de la provocation. Pascal Paugam, Jean-Luc Mélenchon a eu des mots durs sur le débat Darmanin-Le Pen. Il a accusé Marine Le Pen et le ministre de l'Intérieur d'avoir la même névrose, une obsession négative des musulmans. Il a dit qu'aller sur C8, c'était pour lui un acte de résistance. Et il a dénoncé des surenchères anti-musulmanes de la part et de Marine Le Pen et de Gérald Darmanin. Il se pose en défenseur des musulmans, Jean-Luc Mélenchon. C'est une démarche électoraliste ?
Oui, c'est un positionnement électoraliste très clairement, mais quand vous entendant parler de névrose, j'ai envie de lui renvoyer le compliment, parce que quand on l'entendait à l'instant, on sent toute la rage qu'il mettait dans cette phrase. Sa névrose, son obsession des plus fortunés transparaît à chaque mot. Franchement, hier, une fois de plus, c'était un show. L'émission veut ça, mais Mélenchon, malheureusement, de mon point de vue, se caricature lui-même de plus en plus. Use et abuse des formules qui vont faire parler de lui, et il a raison de le faire puisque nous parlons de lui ce soir, d'une certaine façon. Mais sur le fond, je veux dire, sur une question, comme le disait Guillaume Tabar, il aurait pu parler des inégalités et élaborer son propos.
Son
le creusement des
aussi,
inégalités, c'est une réalité qui ne fait que s'accentuer. Même des économistes libéraux s'en préoccupent et s'en inquiètent et appellent les responsables politiques à se saisir du sujet. Il est dommage que Jean-Luc Mélenchon n'entre pas dans le fond et fasse des propositions pour résoudre cette situation.
Alors sur la question Mélenchon défenseur des musulmans, au sein même de la France insoumise, il y a plusieurs lignes qui s'affrontent. On est loin là aujourd'hui de la ligne laïque, voire même anticléricale traditionnelle de la gauche, Jean Garrigue.
Oui, c'est incontestable et ça montre à quel point il est disruptif à gauche et à quel point l'hypothèse, aujourd'hui je pense abandonnée, mais d'une union des forces de gauche, incluant la France insoumise, apparaît comme totalement fantaisiste, parce qu'il y a quand même toute une partie de la gauche qui tient à la laïcité, qui se défie de l'islamo-gauchisme, caractérise pas Jean-Luc Mélenchon comme un islamo-gauchiste, mais disons que manifestement, il est sur une ligne qui ne correspond plus à ce qui a été aussi à un moment donné, mais c'est toujours par vague avec lui, sa ligne républicaine, d'unité nationale, etc. Donc y a quelque chose là qui est très gênant. Il a revendiqué notamment sa participation à la manifestation contre l'islamophobie, dont on avait vu quand même qu'il y avait des dérives insupportables. Et je le répète, il y a toute une partie de l'électorat de gauche, pour le coup, qui ne peuvent pas se reconnaître dans un discours de ce type, d'autant plus comme ça a été dit, il se caricature lui-même. Et comme toujours, à partir de données, j'allais dire sociologiques, qui sont justes, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de communes qui ne pratiquent pas les quotas sociaux de mixité sociale qui seraient nécessaires. C'est vrai qu'il y a une tendance à la ghettoisation des riches et des pauvres dans ce pays. Mais évidemment, tout ça mérite des solutions extrêmement compliquées, extrêmement complexes, de longue durée. Il ne suffit pas comme ça de brandir des slogans de ce type. Et surtout de mettre sous le tapis cet enjeu qui est fondamental pour la majorité des Français, qui est précisément cette question du séparatisme, cette question de la montée de l'islamisme, du communautarisme en France. De dire qu'il y a un problème social en France, oui, d'une fracture sociale, c'est clair, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas traiter ce sujet. Donc là-dessus, je vois vraiment une sorte de fuite en avant là, de Jean-Luc Mélenchon qui me paraît presque un peu suicidaire sur le plan électoral.
Vous êtes d'accord, Guillaume Tabar, c'est suicidaire?
Et en suicidaire, je ne sais pas, parce que vous voyez, le problème d'un discours démagogique, c'est que ça peut parfois ratisser
ça
large.
Peut marcher.
Autre exemple, vous voyez, d'incohérence, vous citiez le rapport aux religions. On a, non pas Jean-Luc Mélenchon, mais l'un de ses députés les plus proches, Éric Coquerel, qui s'indignait que l'on puisse poser la question du voile islamique, qui est pourtant porté dans un espace public, et par contre en pointant le grave danger du voile des mariés catholiques qui sont portés à ma connaissance dans une église et qui en plus de surcroît sont retirés précisément au moment où le sacrement est célébré. Donc vous voyez, dans un cas, il y a une sorte d'obsession anticléricale qui demeure et un déni par rapport à des menaces réelles qui sont celles qui visent notre société.
Ouais, il y a aussi une autre obsession qu'on a pas mal entendu hier, cette obsession anti-police, cette institution qu'il veut rénover de la cave au plafond. Il propose même un désarmement de la police dans les manifestations, Pascal Pogam. Hein.
Oui, alors là c'est un autre, je dirais, c'est un autre créneau qu'il occupe avec constance depuis un an et demi, depuis le mouvement des Gilets jaunes, je dirais, et les excès, les violences qu'on a pu vivre dans les manifestations. Là, effectivement, c'est un amalgame, une fois de plus, revoir la police du sol au plafond, je ne sais pas ce que ça veut dire. Encore une fois, hier, le sentiment que Jean-Luc Mélenchon m'a donné, c'est qu'il avait prévu de cocher un certain nombre de cases au fil de son show, sans jamais parler du fond, mais l'important, c'était d'envoyer des petits signaux à des parcelles de son électorat pour montrer qu'il existait et espérer éclipser ce qui se disait sur la chaîne concurrente.
Bon, je ne sais pas s'il a réussi. En tout cas, il n'a pas fait grimper les audiences. Je ne sais pas si c'est un signe. Merci beaucoup à vous, les grandes voix du vendredi, Pascal Pogam, Guillaume Tabar et Jean Garrigue, de m'avoir accompagné ce soir. Et à très bientôt.
Europe 1, Isabelle Millet.